Merci d'être avec nous, amateurs de sport, ce beau vendredi soir. On vous souhaite un excellent week-end, un excellent Grand Prix. Et laissez-moi profiter de la présence de trois invités pour se remémorer ensemble des souvenirs liés à deux grands événements de l'histoire du sport automobile canadien. La victoire de Gilles en 78 et bien sûr, celle de Jacques à Jerez en 1997. Trois invités donc pour ce faire, Joanne Villeneuve, Jacques Villeneuve et Philippe Lagu. Madame Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous?
Très, très bien.
La semaine va à votre goût?
Absolument.
Toutes les nouvelles sont tombées en place?
Tout tombe à bonne place au bon moment.
Êtes-vous magicienne, Joanne? On dirait que votre vision s'est concrétisée. Avez-vous tordu des bras? Avez-vous joué du coude un petit peu?
Avec beaucoup d'aide de pas mal de monde, dont Jacques, oui. Dont ma fille Mélanie, dont l'équipe qui m'entoure, c'est François Dumontier. Donc, tout le monde ensemble, on a réussi à faire quelque chose de super beau.
Et on a très, très hâte de vivre ce moment magique-là, très certainement dimanche. Et permettez-moi d'accueillir et de présenter également notre autre référence Formule 1 ici à l'antenne, au 98.5, bien connu, bien sûr, pour ses opinions dans le monde de l'automobile depuis, je veux pas le vieillir, mais quelques décennies minimum.
27 ans.
Philippe Lagu, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Octobre 1978, victoire de Gilles ici à Montréal. Octobre 1997, conquête du championnat du monde par toi, Jacques, à Jerez au Grand Prix d'Europe. 19 ans entre ces deux événements. Quels sont tes souvenirs de 78? On voit la photo, on y voit tout le clan Villeneuve. Je pense qu'il manque juste Mélanie. Est-ce que Mélanie était là?
Non, Mélanie avait 4 ans à l'époque, donc c'était beaucoup. Elle était beaucoup trop petite pour venir s'asseoir pendant toutes ces heures, regarder les voitures tourner. Donc Jacques était passionné par la course automobile.
Je pouvais les regarder 10 heures, les autos tourner, donc c'était pas un problème.
Jacques, 1978, t'as quel âge à ce moment-là?
7 ans, oui, bravo, 7 ans. T'as été à l'école, hein?
t'es sur le circuit, évidemment, pour la course.
Oui, mais je m'en souviens pas, je me souviens de la photo.
Oui, oui.
Et c'est la photo qui me donne des souvenirs. Donc, quelque part, je dis, ah, j'étais là, c'était génial. Mais quand j'y pense, non, je me souviens pas d'avoir été là. Je me souviens juste de voir la photo. Quand je me regarde sur la photo, je vois que c'était un moment qui était quand même très, très important.
Vraiment, hein? Est-ce que tu as des objets, des photos, justement, chez toi, à ta demeure, qui te rappellent des moments de course? Peut-être pas celle-là, mais d'autres, non? Pas vraiment?
Non, on n'est pas une famille de souvenirs à ce niveau-là.
Non?
Non, on n'a pas de photos en grandissant, pas de trophées.
Un drapeau à damier.
Oui, mais... Oui, il était enroulé dans son carton, donc c'était même pas... Non, on gardait pas... Jacques a raison, on n'était pas très souvenirs. Moi, je pense même pas de prendre des photos quand je suis... Même aujourd'hui, avec nos téléphones, on peut le faire facilement. C'est pas quelque chose auquel je pense.
Philippe Lagu, t'étais sur place en 78. Je sais pas si t'assistais à ta première course à vie.
Oui, oui, absolument.
Et ça a déclenché beaucoup de choses dans ta vie, Philippe. Dirais-tu que c'est là que ça s'est passé?
T'as nommé deux dates tantôt. T'as nommé 1978, la première victoire de Gilles, puis t'as nommé le championnat de Jacques en 1997. On tournera pas autour du pot, là. C'est les deux dates les plus importantes de l'histoire du sport automobile au Canada, point barre. Il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Puis en troisième place, je dirais probablement la victoire de Jacques aux 500 000 d'Indianapolis. Tu sais, je veux dire, il y a un Canadien qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis et il y a un Canadien qui a été champion du monde, il est à côté de moi.
Oui.
Et il y a un Canadien qui a gagné le Grand Prix du Canada, c'est Gilles.
Et toi, en 78, comme témoin, comment tu le vis? Quel âge as-tu, Philippe?
J'avais 14 ans.
14 ans?
Oui. Ça faisait 2 ans que je suivais la Formule 1. J'avais commencé à suivre ça en 76 avec des magazines européens qu'on avait à la bibliothèque du collège où j'étais. Donc, je lisais les comptes rendus de Grand Prix 2-3 mois en retard. C'est vraiment la préhistoire, là. C'est avant Internet et tout ça. Une époque que t'as pas connue, Jacques. Ben, un peu quand même.
Non, j'ai connu l'avant-téléphone.
T'es quand même né en 71, là.
Avant-téléphone portable, oui.
Tout à fait. Alors, je suivais ça vraiment comme ça, à distance, avec beaucoup de retard. Et je trouvais ça intéressant, là. Écoute, comme un feuilleton, là. Tu sais, j'avais hâte de lire le magazine du mois prochain pour savoir qu'est-ce qui était arrivé au Grand Prix suivant. Parce que je pouvais pas dire ça dans les journaux ici, au Québec. Il y a personne qui couvrait la Formule 1 au Québec. Ça n'existait pas.
Jacques, tu dis, bon, ben j'ai pas de souvenir, c'est la photo qui me permet de gratter là-dedans. Reste que, je parle pas des souvenirs qu'on se construit avec les années à partir des photos, mais te souviens-tu vraiment de ton enfance, comment tu voyais la F1 ou de moments de course?
J'ai des flashs, pas celle de Montréal, mais j'ai d'autres flashs, mais c'était souvent lié à des voyages pour se rendre au circuit dans les motorhomes. Et puis à l'époque, en Europe, chaque pays avait sa monnaie. Donc je me souviens, on prenait une nouvelle monnaie qui était pleine de couleurs et je trouvais ça génial. Donc c'est des petits flashs comme ça qui sont peut-être pas relié nécessairement à la course elle-même.
Je comprends. Mais te souviens-tu par ailleurs du moment où tu as eu envie, ou en fait, ça a toujours été dans ton ADN que de penser que tu voulais conduire ces voitures-là?
J'ai jamais eu de question. Mon premier souvenir est un jour, je vais faire de la course automobile, c'est tout. La question ne s'est jamais posée. Il n'y a jamais eu de doute pour qui que ça soit. J'ai grandi en jouant avec des voitures, en faisant des pistes dans le tapis. Rien d'autre n'existait.
Ouais. Ça va plus loin, parce que quand moi, je lui posais la question, il devait avoir 6, 7, 8 ans, puis je disais, oui, mais si tu deviens pas pilote, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il me regardait en me disant, mais attends, il y a rien d'autre à faire? Qu'est-ce que je peux faire en dehors d'être pilote? Puis j'essayais d'expliquer que dans le monde, il y a 20 personnes, il y en a 20 pilotes, il y en a pas... puis je dis, toutes les autres personnes, ils font quoi, tu penses? Ah, ben j'en sais rien.
Puis en même temps, ben peut-être que cette vision des choses, puis peut-être que ceux qui atteignent les sommets voient les choses de cette façon-là. Jacques, en as-tu discuté avec d'autres champions de F1?
J'en ai parlé avec d'autres pilotes. C'est pas tout le monde qui a la même attitude. En parlant avec certains pilotes, leur réponse était, ben écoute, j'avais fait un peu de kart, on voyait que j'étais vite, puis je me dis, je pourrais faire un peu d'argent dans ce métier-là, donc pourquoi pas. Donc c'est pas tout le monde qui a la même passion. Il y en a d'autres qui sont très passionnés aussi. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut pas avoir de plan B.
Mm-hmm. Et quelle analyse fais-tu rationnelle, tout en considérant aussi que tu es le fils de Gilles, évidemment, mais de la place qu'occupe, de ce que ça a permis, de ce que ça a ouvert, cette victoire-là de Gilles sur Ferrari en 1978, Jacques?
Il n'y a rien de rationnel, c'est de la pure passion. Quand Enzo Ferrari a pris Gilles, c'était aussi parce qu'il voyait sa passion pour ce sport automobile. Il se donnait à fond et il n'y avait pas de réflexion sur ce que ça pouvait lui apporter dans la vie ou en business ou ainsi de suite. C'était la pure passion du pilotage. Donc, je pense que c'est ça que Enzo Ferrari a apprécié. C'est ça que les fans ressentaient aussi. Et ce qui a permis de créer tout cet engouement qu'il y a eu au fil des années. Et la différence peut-être avec la course automobile au Canada et d'autres pays, c'est que cette victoire a permis de mettre le Canada sur la map internationale.
Clairement. As-tu revisionné certaines des courses de ton père?
Non, pas des courses entières. Souvent, maintenant sur Internet, on trouve facilement des images, mais c'est pour voir soit des beaux dépassements, des beaux combats, ou même des accidents. C'est généralement ce que les pilotes regardent, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on regarde des faits de course? Ça va être soit les gros accidents ou les belles passes d'armes, comme il y a eu avec René Arnoux à Dijon.
Est-ce que y a des séquences en particulier que tu as apprécié regarder ou qui t'ont bouleversé quand tu as regardé des images d'archives de Gilles en piste?
Oui, mais c'est les mêmes que tout le monde. Hein. C'est les clés phares. C'est principalement avec René Arnoux à Dijon, où pendant deux tours, il y avait un gros combat. C'est de rester en tête à Jarama ou de gagner Monaco avec une voiture qui n'était pas supposée être vite là. Donc, c'est des moments qui ressortent et que je comprends mieux une fois que j'étais pilote, que j'ai réussi à mieux à comprendre l'exploit que ça avait été.
Ce qui arrive, c'est que nous, on n'avait pas comme aujourd'hui toutes les caméras partout. On pouvait pas vraiment voir la course de la même façon. Moi, je participais à la course en tant que chronométreur. Et donc, à partir de là, on a une vision complètement différente d'une course. On regarde la course avec des chiffres et non pas avec des images. Mm-hmm. Donc, c'est différent un petit peu. C'est différent un petit peu, mais bon, d'un autre côté, ben c'est sûr que quand on regarde les images, quand en Autriche, Gilles est parti de la quatrième ligne puis s'est retrouvé premier au premier virage en dépassant tout le monde contre le mur de pit wall. Mais là, on se dit, ouais, OK, là, c'est quand même spécial.
Ouais. Philippe, toi, tu dois faire comme moi. Tu dois te replonger le nez là-dedans de temps en temps dans les archives, non?
Oui, régulièrement. Puis il y a une course, je trouve, qu'on mentionne pas assez souvent quand on parle de Gilles Villeneuve. C'est quand il a gagné aussi aux États-Unis, à Watkins Glen, en 1979. Il pleuvait. Écoute, il était tout seul. Il y avait lui. Et il y avait les autres.
Et on l'a vu particulièrement lors des essais sous la pluie, je pense, où il avait mis, quoi, 11, 12 secondes
ouais,
sur le temps qui...
Gilles, quand il pleuvait, déjà, il était dans son élément, ouais, là, parce ouais. que, tu sais, c'est un ancien champion de motoneige, alors quand ça glisse un petit peu, ouais.
là... C'est la vision, hein. Dans la motoneige, les pilotes prennent l'habitude de regarder... Ils regardent devant, mais c'est un nuage, juste de voir avec les coins des yeux des couleurs sur les côtés, et ils sont capables de s'adapter à ça.
C'est assez phénoménal. Et ça pique ma curiosité. As-tu déjà fait de la course de motoneige, toi, Jacques?
Non, moi, j'étais skieur avant de faire de la voiture. Mais non, en Europe, la motoneige, c'est pas ce qu'il y a de plus connu.
Non, mais as-tu expérimenté quelque part dans ta vie, même à la retraite? Mais pas à la retraite, t'es pas vraiment à la retraite. T'es toujours prêt à piloter n'importe quel
oui,
bolide.
Non, j'ai fait un Québec-Lac-Saint-Jean en skidoo. Donc oui, ça, c'était le fun.
Okay,
mais okay. Ça s'est limité à ça.
C'était pas de la course. Philippe, tu voulais quand même compléter. Excuse, est-ce que je t'ai interrompu un peu par rapport au fait que sous la pluie, Gilles était un artiste, là, hein?
Oui, ben, on l'a vu d'abord à Watkins Glen. Moi, je pense que c'est une de ses plus grandes victoires en 1979. 79, ne l'oublions pas, hein. Gilles avait fini deuxième au championnat.
Oui.
Et s'il n'avait pas abandonné au Grand Prix de Belgique cette année-là, c'est peut-être lui qui aurait été champion. Le championnat, là, il s'est probablement joué là. Donc, tu sais, c'était quand même une grande saison pour lui. C'est vraiment là qu'il a éclos, on pourrait dire ça comme ça. La graine avait été semée la saison d'avant, saison qui avait été difficile, mais bon, qui s'était terminée sur une bonne note avec la première victoire à Montréal. Après ça, 79, et cette superbe victoire à Watkins Glen. Puis quand on dit que sous la pluie, il était dans une classe à part, ben oublions pas Montréal en 1981. Parce que finir troisième...
81, c'est l'aileron qui se détache.
C'est l'aileron qui se... Finir troisième, pas d'aileron en avant, sous la pluie, je suis même pas certain qu'Ayrton Senna aurait été capable de faire ça. Je pense qu'il y a à peu près Gilles et juste Gilles qui pouvaient finir troisième avec cette voiture-là dans ces conditions-là.
Jacques, peut-être, hein? Peut-être Jacques.
La pluie, c'était pas ton truc, toi. Moins
non,
que Gilles.
Pas, non, c'est oui, moins que Gilles, mais c'est non, c'est la pluie. J'aimais quand il y avait beaucoup d'eau. Quand il y avait juste un peu d'eau, ça, j'étais pas génial. Mais quand il y avait énormément d'eau, pareil qu'on ne voyait rien, comme on a eu en NASCAR ici quand on a roulé à Montréal. C'est quelque chose que j'adorais. Ça, c'est, je pense que c'est le ski qui m'avait aidé aussi. Parce que comme en motoneige, c'est pas grave la position du ski, de la motoneige ou de la voiture. C'est là où on regarde dans la direction à laquelle on va. Et c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter à ça. Mais il y a une différence aussi. C'est une époque où les voitures étaient peut-être moins technologiques. Il y avait de l'appui aérodynamique, mais c'était moins pointu par rapport à l'époque ensuite de Senna où s'il y a un tout petit morceau qui partait, la voiture devenait inconduisible. Donc ça permettait pour des pilotes comme Gilles qui était un peu des funambules de s'adapter aux problèmes de la voiture.
La fameuse voiture, puis c'est pas tout le monde qui se souvenait que la victoire de 78, c'était avec la numéro 12. Parce que dans l'imaginaire collectif, Gilles, c'est 27.
Tu parles de numéro, tout le monde voit le numéro 27 comme le numéro représentatif, mais pour moi, le numéro important, c'est le 12. C'est le numéro 12 avec laquelle il a eu sa première victoire.
Je suis absolument d'accord.
Oui, c'est un numéro positif, il s'est battu pour le championnat. Il n'y a rien de beau, de positif avec le numéro 27, c'est juste que ça a été son dernier numéro. Donc, il reste marqué. Et pour moi, c'est pas nécessairement un beau numéro. Le 12 est plus
T'es attaché
plus
au 12,
oui,
toi?
Oui.
Et pourtant, tu as porté le 27 en course.
Il a porté le 12 aussi.
J'ai porté le 12 aussi l'année précédente. Mais ça avait été organisé par les commanditaires de l'époque. Et on ne m'a pas posé la question. Donc, ils ont trouvé que c'était génial de mettre une année le 12 puis l'année suivante le 27.
Okay. Mais qu'est-ce
ça a bien marché.
Ça a vraiment bien marché. Oui. Tu as gagné Indianapolis avec le 27.
Le 27 et deuxième avec le numéro 12.
Tu nous exprimes ton penchant pour le 12, mais pour Gilles, mais pour toi. Non, pour toi
je
aussi
préfère,
le 12.
Je préfère le 12 aussi, oui, parce que le 27, c'est même pas joli. Visuellement, c'est pas un beau chiffre, donc je suis très attaché au côté artistique des chiffres ou les chiffres qui sont représentatifs. C'est le 12, c'est un beau chiffre carré qui suit, ça c'est quelque chose qui me parle.
Même si c'est le chiffre qui t'a fait gagner les 500 000 d'Indianapolis et le championnat d'IndyCar.
C'est pas grave, ça reste okay. C'est pas joli.
Non, c'est simple. Ben Jacques, c'est Jacques, hein? Ta façon à toi de voir les choses, et c'est toujours intéressant de continuer d'apprendre à te connaître depuis qu'on a amorcé cette collaboration-là aux amateurs de sport, que les auditeurs que nous apprécions. Quelque chose à dire, Joanne, sur les numéros? Sans doute.
Non, ben le 27, c'est la date de mon anniversaire.
Ah ben oui, pardon. Oh mon Dieu.
Incident diplomatique.
Oh non, non.
Non.
Comme on l'a dit tantôt dans la famille, on n'est peut-être pas très anniversaire de toute façon.
Non, on n'est pas très anniversaire, donc de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et ça, on le voit,
Je m'en souviendrai jusqu'à demain, maintenant, c'est bon.
Mais en même temps, c'est le reflet de la réalité. C'est pour ça que vous vous en amusez, parce que Jacques, tu nous l'as déjà dit. Toi, t'es pas un gars d'anniversaire, t'es pas un gars de date vraiment. Fait que, en ce sens, c'est juste une confirmation de la façon dont tu le vis, hein.
Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas mentir, parce que on se fait pogner hein, dans des histoires comme ça. Là.
Ça nous rebondit en pleine face très souvent. Maintenant, je reviens à ce que je voulais amener comme peut-être sujet de conversation, parce que il y a une fascination pour les bolides, les voitures, on le sait. Là, je parle des voitures de consommation, mais maintenant, un pilote avec la voiture avec laquelle il course à fond la caisse, la fameuse 312 T3, numéro 12, Jacques, tu l'as déjà pilotée, celle-là. Est-ce que c'est celle que tu avais pilotée à Fiorano?
Non. À Goodwood, à Fiorano, c'était la T4. C'était celle du championnat où, la Ferrari était une merveille à piloter. La T3 était inconduisible. Vraiment, c'est une voiture compliquée.
Qu'est-ce que tu peux nous dire d'une Ferrari, d'une monoplace F1 qui roulait en 78, celle que ton père a conduite? Là, qu'est-ce que ça te dit comme bolide? Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'as...
Ah oui, c'est magnifique. C'était bien construit. On a l'impression que c'est très vieux, mais c'était hyper bien construit. La boîte de vitesse, tout fonctionnait à merveille. Donc, c'était pas des grosses charrues non plus. C'était quand même des vrais chars de course. Mais la 78 était très instable. L'année suivante, en 79, il y a eu l'effet de sol qui est arrivé, que Lotus avait déjà mise en place et que tout le monde a copié, mais la voiture 78 était vraiment instable.
Ça, c'est quelque chose que tu as étudié parce que à cette époque-là, tu n'étais pas conscient de tous ces détails-là. C'est tout ton appétit pour l'histoire du sport automobile? T'as-tu fouillé
Non, j'ai pas fouillé, mais je suis pas passionné. Donc, il suffit de regarder des images et puis j'ai pas fait grand-chose quand je l'ai conduite à Goodwood, mais c'est vrai que c'est une voiture qui était nerveuse et instable. Donc, c'est normal que Gilles, avec sa fougue, et était à sa première saison. Il y a eu quand même plusieurs accidents cette année-là, mais ça faisait partie de l'apprentissage et ça se passait mieux lorsque la voiture était un peu plus stable, qui permettait après le problème, c'était les bris mécaniques aussi, parce qu'il y en avait quand même beaucoup à l'époque.
Mais pour ceux qui disent, Philippe, que peut-être Gilles, à l'époque, a profité de l'abandon de Jarier, et on reprochait souvent à Gilles de ne pas être un pilote économe par rapport, on l'a entendu des témoignages d'anciens adversaires de pilotes de Formule 1, c'était pas un pilote d'économie, mais c'est peut-être ça qui lui a permis de remporter cette course-là, alors que Jarier, lui, a peut-être été trop exigeant, trop demandant avec cette voiture-là cette année-là, mais... alors qu'il avait la chance de gagner une course.
Lotus, c'est
peut-être emballé un peu trop vite, non?
Les Lotus étaient des voitures très dominante, mais qui était fragile comme du verre aussi. S'il n'y avait pas eu tant d'abandon cette saison-là, il aurait probablement gagné à peu près toutes les courses, là. Mais c'est des voitures qui brisaient à répétition. Et c'est ce qui est arrivé à Jarier sans surprise. C'est arrivé à Montréal, puis c'est arrivé à la course d'après aussi, à Watkins Glen. Les deux fois, Jarier a eu la pole et il a mené la course. Et les deux fois, il a abandonné. Alors, Gilles, il était vraiment largué, là. Jarier allait beaucoup, beaucoup plus vite.
Oui, oui.
Andretti, lui, il avait déjà son titre de champion, puis il était comme un peu démotivé, puis il roulait un peu sur le neutre, comme Lewis Hamilton les trois dernières courses la saison passée, une fois qu'il avait son titre en poche, il a été un petit peu invisible dans les dernières courses de la saison. Alors, Gilles, il a fait ce qu'il fallait faire à Montréal. Écoute, il s'en allait pour finir deuxième, son premier Grand Prix à Montréal. Juste ça, déjà, c'était très bien. Il avait dépassé... T'sais, il était parti quatrième, il avait dépassé, bon, Jody Scheckter, Alan Jones, il est deuxième. Tout le monde est content, là, sur le circuit à ce moment-là. Et quand on annonce sur les écouteurs, parce qu'il n'y a pas d'écran géant encore à ce moment-là, ne l'oublions pas.
Ni de radio avec les voitures. Alors, me rappelait Joanne récemment, c'est vrai.
Quand on entend sur les haut-parleurs que Jean-Pierre Jarier vient d'abandonner, aïe aïe, là, mon gars, c'était le délire.
Je regardais les images encore, c'était en noir et blanc, puis il y a des objets qui revolent dans les gradins. Vraiment, là, les gens commencent à lancer leurs casquettes.
Il faut faire attention un peu. Faut attendre que la course soit finie quand même, parce qu'on a vu des courses se perdre dans le dernier virage. On se souvient Mansell une année qui était en tête, qui a ralenti pour saluer la foule, puis qui a calé. Et donc, il n'a pas gagné le Grand Prix. Donc, il faut quand même attendre la dernière ligne droite. Mais c'est vrai que c'était un moment magique. C'était hollywoodien. Et dans ces moments-là, il faut toujours un peu de chance. Il faut se mettre la chance de son bord. Donc, il faut se mettre en position, prendre des risques pour être capable de récupérer cette chance-là si elle tombe. Mais des histoires comme ça ne se passent jamais sans un peu de chance.
Ah, la chance, la fameuse chance. Tu fais bien de le souligner. C'est un facteur souvent non négligeable dans le monde du sport et peut-être dans la vie en général. C'est le temps de s'arrêter pour une pause pour le bulletin d'information sur le réseau Cogeco. Restez avec nous et avec nos invités, Philippe Lagut, Jacques Villeneuve et Joanne Villeneuve. Et on revient dans quelques instants alors qu'on va plonger cette fois dans la victoire de Jacques en 97 qui lui a permis de mettre la main sur le championnat du monde des pilotes.